Le site Mirathul Anbiya a le plaisir de vous présenter la traduction orale et rapprochée de l'explication donnée par l'éminent Cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi du livre Les fondements de la Sunnah de l'imam Ahmed. Qu'Allah leur fasse miséricorde.
Nous demandons à Allah de rendre. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Donc ce soir nous débutons bi'idhnillahi ta'ala la traduction de l'explication de Cheikh Ahmed al-Najmi rahimahullah, la traduction de l'explication de Cheikh Ahmed al-Najmi rahimahullah sur le livre Usul al-Sunnah, les fondements de la Sunnah, écrit par l'imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah. Et donc, pour ce premier cours, qui va être donc une présentation du livre, ainsi que de l'auteur, et ainsi que de l'explicateur, nous disons, la chose la plus importante et la plus obligatoire pour l'individu est de connaître le dogme authentique de la religion. C'est pourquoi nos pieux prédécesseurs, as-salafus salih, c'est pourquoi nos pieux prédécesseurs ont pris soin de consigner par écrit le dogme authentique, l'aqidah sahiha. Ils ont pris soin de consigner par écrit le dogme authentique, de l'enseigner et d'en clarifier les points, afin que les gens du mal et de l'égarement ne puissent pas pervertir ce dogme avec de fausses croyances innovées. Les savants éducateurs, al-ulama rabbaniyoun, de la communauté de la Ummah, ont donc exposé la croyance authentique et combattu les innovations ainsi que les croyances erronées qui ont été introduites chez les musulmans, soit par leur réfutation, c'est-à-dire la réfutation des croyances innovées, soit par l'explication de la croyance islamique authentique et pure de toute altération, en citant les preuves claires du Coran et de la Sunna. Ainsi, par leurs efforts, Allah a préservé l'islam, démontré la vérité et brisé le faux. Et parmi ceux qui a été écrit dans cela, dans le dogme authentique, il y a cet épître sublime qu'est Usul al-Sunnah, les fondements de la Sunnah, de l'imam Ahmed ibn Hanbal. cette épître fait partie des écrits les plus importants qui ont exposé les fondements du dogme authentique appuyé par les preuves du Coran et de la Sunna. Puis le Cheikh Ahmed Najmi, rahimahullah, est venu expliquer cette épître en détail. Et cela durant le 5e séminaire du Cheikh Abdullah Al-Qaraawi, qui a lieu à Samita, dans le sud de l'Arabie Saoudite, à la frontière yéménite. Puis les cours de Cheikh Ahmed Najmi, donc qu'il a donné en explication à cette épître, ont été transcrits, puis édités, afin d'en généraliser le bénéfice. J'ai donc choisi de vous enseigner ce livre, qui est donc l'explication de Cheikh Ahmed Najmi sur Usul al-Sunnah de l'imam Ahmed, en le traduisant comme cela m'a été demandé. Mais avant d'entrer dans le livre à proprement dit, nous allons faire une brève biographie de l'auteur de l'épître, l'imam Ahmed ibn Hanbal, puis de l'auteur de cette explication, qu'est le Cheikh Ahmed al-Najmi, rahimahullah. Donc en ce qui concerne l'imam Ahmed, il s'appelait Ahmed ibn Muhammad ibn Hanbal. Ahmed, fils de Muhammad, fils de Hanbal. Donc Hanbal était son grand-père et non pas son père. Il est né en l'an 164 de l'Hégire, qui correspond à l'an 780 du calendrier chrétien, dans la ville de Bagdad. Il est né dans la ville de Bagdad. Puis il a grandi orphelin, car son père est décédé alors qu'il n'avait que 3 ans, et c'est sa mère qui s'est occupée de lui. Il a commencé à étudier à l'âge de 15 ans, parcourant pays et contrées pour prendre la science des grands savants de son époque, tels que Soufiane ibn Uyayna, Yahya ibn Sa'id al-Qattan, Abd al-Razzaq al-San'ani, l'imam al-Shafi'i et bien d'autres. Et on compte parmi les élèves de l'imam Ahmed, ceux qui ont pris la science auprès de lui, de grands savants également, comme l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim, l'imam Abu Daoud, ou bien Ali ibn al-Madini, et beaucoup d'autres. Cela, en plus de ses fils, qui faisait également partie de ses élèves, ses deux fils, Saleh et Abdullah, fils de l'imam Ahmed. Et il faut savoir que l'imam Ahmed, rahimahullah, beaucoup de savants ont fait son éloge. Beaucoup de savants ont fait son éloge à son époque. À titre d'exemple, parmi ceux qui ont été dit sur lui, ce que Qutaybah ibn Sa'id a dit, lorsque Qutaybah dit, khayru ahli zamanina ibn al-Mubarak, ثم هذا الشاب يعني أحمد بن حنبل. Donc Qutaybah a dit, la meilleure personne de notre époque est Ibn al-Mubarak, Abdullah ibn al-Mubarak. Puis ensuite, après lui, ce jeune, en parlant de l'imam Ahmed, rahimahullah. Et également Qutaybah disait, لولا الثوري لمات الورع ولولا أحمد لأحدث في الدين أحمد إمام الدنيا. Donc également Qutaybah disait, sans Sofiane al-Thawri, la piété aurait disparu, et sans l'imam Ahmed, rahimahullah, les gens auraient innové dans la religion. Ahmed était l'imam du monde entier. Et l'imam al-Shafi'i, rahimahullah, qui a été un des professeurs de l'imam Ahmed, il disait sur son élève, il disait sur l'imam Ahmed, rahimahullah, « J'ai quitté Bagdad et je n'y ai pas laissé un homme meilleur ou plus savant ou plus connaisseur ou plus pieux que Ahmed ibn Hanbal. Car l'imam Shafi'i, rahmahullah, dans une partie de sa vie, a vécu à Bagdad. Et c'est là où il a donc connu l'imam Ahmed, rahmahullah, et l'imam Ahmed suivait ses cours. Donc il dit, lorsque j'ai quitté Bagdad, je n'ai pas laissé après moi un homme meilleur, ni plus savant, ni plus connaisseur, ni plus pieux que Ahmed ibn Hanbal. Et il disait également, l'imam Shafi'i, rahmahullah, sur Ahmed, il disait, Ahmad imamun fi thamani khisal, imamun fi al-hadith, imamun fi al-fiqh, imamun fi al-lugha, imamun fi al-Qur'an, imamun fi al-faqr, imamun fi al-zuhd, imamun fi al-wara, imamun fi al-sunnah. Donc il disait, l'imam Shafi'i rahmahullah, Ahmed est un imam, c'est-à-dire un guide à suivre, un exemple à suivre, dans 8 choses. Il est un imam dans le hadith, un imam dans le fiqh, un imam dans la langue arabe, un imam dans le Coran, un imam dans la pauvreté, un imam dans l'ascétisme, un imam dans la piété et un imam dans la sunna. Et Ishaq ibn Rahouya, rahimahullah, il disait sur l'imam Ahmed, Ahmed hujjatun bayna Allahi wa bayna khalqi. Ahmed est une preuve entre Allah et ses créatures. Ahmed est une preuve entre Allah et ses créatures. Et Ali ibn al-Madini, rahimahullah, il disait de son cheikh, l'imam Ahmed, il disait, A'azza Allahu ad-din bis-siddiq yawm ar-ridda wa bi Ahmad yawm al-mihna. Donc, il disait qu'Allah a renforcé la religion par Abu Bakr al-Siddiq le jour de la grande apostasie. Et il a renforcé la religion par Ahmed le jour de la grande épreuve dont nous allons parler d'ici peu, qui est l'épreuve de dire que le Coran est créé. Et également parmi ce qui a été dit sur l'imam Ahmed, rahimahullah, ce que l'imam al-Nasa'i, rahimahullah, a dit, lorsqu'il dit, Jama'a Ahmad ibn Hanbal al-ma'rifata bil-hadith wal-fiqh wal-wara'a wal-zuhd wal-sabr. Donc il disait, al-Nasa'i, rahimahullah, il disait, Ahmed ibn Hanbal a réuni entre la connaissance du hadith, la connaissance du fiqh, la piété, l'ascétisme et l'endurance. L'endurance, la patience. Donc telles sont les paroles des grands savants et des grands imams sur Ahmed ibn Hanbal, ou une partie de leurs paroles. Puis, nous allons maintenant parler donc de l'épreuve qu'a subi l'imam Ahmed, rahimahullah, et qui était une épreuve générale sur toute la communauté à son époque. Lorsque le calife Al-Ma'moun s'est fait entourer par les Mu'tazila, les Mu'tazilites, la secte des Mu'tazilites, qui l'ont emmené donc dans leur innovation. Donc, les Mu'tazilites ont emmené le calife Al-Ma'moun dans leur innovation. Et vous savez que les Mu'tazila, donc, renient les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala renie les attributs d'Allah. Renie les attributs d'Allah. Ils disent qu'Allah a des noms mais n'a pas d'attributs. Et donc, ils nient le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est l'attribut de la parole, soit doté de l'attribut de la parole. Et de là donc, ils ont dit que le Coran n'est pas la parole d'Allah, mais qu'il a été créé. Et donc, les Mu'tazilites ont emmené le calife El-Ma'moun sur cette croyance erronée. Et le calife donc a imposé aux musulmans d'avoir cette croyance. Le calife a imposé aux gens d'avoir cette croyance. Et il a ordonné de punir tous ceux qui n'adopteraient pas cette croyance. Et il a écrit donc à son suppléant à Bagdad, qui s'appelait Ishaq ibn Ibrahim, pour lui ordonner d'appeler les gens à dire cette chose, à dire que le Coran est créé et qu'il n'est pas la parole d'Allah. Et donc, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Et les gens qui refusaient d'adopter cette croyance étaient donc fouettés et certains même assassinés. Et donc, beaucoup de savants à cette époque, par peur des représailles, et par peur donc de la menace du calife, ont prononcé avec leur langue cette croyance, tout en la réfutant dans leur cœur. Mais l'imam Ahmed, rahimahullah, avec d'autres, ont refusé de le dire, ne serait-ce avec leur langue. Et de là, ils ont été emprisonnés, puis on a ordonné qu'ils soient envoyés vers le calife El-Ma'moun, enchaînés. Mais lorsqu'ils se sont approchés, sur la route, ils ont approché donc de l'endroit où était le calife, il leur a été rapporté que le calife El-Ma'moun était décédé. Et celui qui a son successeur, le successeur du calife, qui était donc El-Mu'tasim, qui s'appelait El-Mu'tasim, donc le successeur du calife El-Ma'moun, qui s'appelait lui El-Mu'tasim, a pris la relève dans le fait d'imposer aux gens cette croyance, car il était entouré donc de ces Mu'tazilites, de ces innovateurs. Et il a donc imposé à l'imam Ahmed, rahmahullah, de dire cela, mais l'imam Ahmed, rahmahullah, a persisté sur la croyance authentique et a refusé donc d'adopter cette croyance ou de la prononcer. Et il y a eu plusieurs débats devant le calife entre l'imam Ahmed rahimahullah et entre les Mu'tazilites et notamment leur tête qui s'appelait Ahmed ibn Abi Du'ad. Ahmed ibn Abi Du'ad, qui était la tête des Mu'tazilites. Et c'est pour cela que les savants appellent l'imam Ahmed Ahmed Sunna, en opposition à ce Mu'tazilite qu'ils appellent Ahmed al-Bid'a. Donc Ahmed de la Sunna est face à Ahmed de la Bid'a. Donc il y a eu plusieurs débats devant le calife entre les deux Ahmed. Et l'imam Ahmed, rahimahullah, ne cessait de leur dire, amenez-moi une preuve du Coran. Coran ou de la Sunna sur le fait que le Coran n'est pas la parole d'Allah et qu'il a été créé, je le dirais. Mais il n'arrivait pas à lui apporter cette preuve, donc il disait que le Coran est la parole d'Allah et qu'il n'a pas été créé. Et suite à cela, donc, il a été fouetté. Et il est rapporté que lorsqu'il a été emmené pour être fouetté par les bourreaux, il a dit au calife Al-Mu'tasim, il lui a dit: ô chef des croyants, par Allah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le sang d'un musulman qui témoigne la ilaha illallah est sacré, sauf dans trois cas. Il lui a cité le hadith. Et également, il lui a cité l'autre hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils témoignent la ilaha illallah. Alors s'ils le disent, ils auront préservé de moi leur sang et leur bien. Alors, l'imam Ahmed lui dit au calife: alors, par quoi tu rends licite mon sang, alors que je n'ai pas fait une de ces choses, ô chef des croyants? Et rappelle-toi du jour où tu te tiendras debout devant Allah, tout comme je me tiens debout aujourd'hui devant toi. Mais malgré cela, le calife Al-Mu'tasim ordonna que l'imam Ahmed, rahimahullah, se fasse fouetter. Les bourreaux le fouettaient jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Puis lorsqu'il perdait connaissance, il s'arrêtait jusqu'à ce qu'il reprenne connaissance. Et lorsqu'il reprenait connaissance, il le refouettait à nouveau. Il le fouettait à nouveau. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce que le calife, voyant l'état de l'imam Ahmed, rahimahullah, ordonne qu'il soit ramené, lui, auprès de sa famille. Et il est rapporté qu'il a reçu une trentaine de coups de fouet, mais qui étaient des coups puissants. Et dans certaines versions, il est dit qu'il a reçu 80 coups de fouet. Surtout que l'imam Ahmed, rahimahullah, était un homme mince. Il était mince. Donc, les coups de fouet, yani, lui faisaient mal. Puis donc, lorsque l'imam Ahmed a été ramené chez lui, le temps a passé jusqu'à ce que le calife en place, Al-Mu'tasim, décède, et son successeur, qui s'appelait Al-Mutawakkil, lorsqu'il a pris donc le califat, et c'était un homme, comme il est rapporté, qui aimait la sunna et les gens de la sunna, alors lorsque lui a pris le califat, il a arrêté cette fitna, il a arrêté cette épreuve, qui est donc de dire que le Coran est créé, et il a honoré l'imam Ahmed, rahimahullah, après des années et des années d'épreuves. Donc ceci est l'épreuve qu'a subi l'imam Ahmed rahimahullah et qu'a subi la communauté à son époque. Mais seul l'imam Ahmed rahimahullah et quelques-uns parmi les savants de son époque ont tenu. Enfin, pour terminer cette brève biographie de l'imam Ahmed rahimahullah, il faut savoir donc que l'imam Ahmed rahimahullah est décédé en l'an 241 de l'Hégire, qui correspond à l'an 855 du calendrier chrétien, dans la ville de Bagdad, à l'âge de 77 ans. Il faut savoir également que plus de 700 000 personnes, selon ce qui a été rapporté, plus de 700 000 personnes ont assisté à sa prière mortuaire. Plus de 700 000 personnes ont prié sur lui. Rahimahullah ta'ala. Waskanahu fasih jannati. Ensuite, toujours donc en guise de présentation de ce cours que nous allons commencer, nous allons faire une brève biographie également de Cheikh Ahmed al-Najmi, rahimahullah. Donc il s'appelait Ahmed ibn Yahya al-Najmi. Ahmed fils de Yahya al-Najmi. Il est né en 1346 de l'Égir, qui correspond à l'an 1928 du calendrier chrétien, dans le village de Nijamiya, qui est un village de la région de Jizan, dans le sud de l'Arabie Saoudite. Et Cheikh al-Najmi, rahimahullah, était fils unique. Il était fils unique de parents vertueux qui ont fait vœu à Allah subhanahu wa ta'ala de consacrer leur enfant à la religion et de ne le charger d'aucune chose du bas monde. Il a donc étudié la science islamique dès son plus jeune âge. Et parmi les plus grands savants auprès desquels il a étudié, on peut citer Cheikh Abdullah al-Qarawi, qui a été celui qui a amené la da'wa authentique dans la région sud d'Arabie Saoudite, Cheikh Abdullah al-Qarawi. Et également parmi les savants auprès desquels a étudié Cheikh al-Najmi, il y a Cheikh Hafid al-Hakami. Il y a également l'ancien grand mufti d'Arabie Saoudite, qui était Cheikh Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh. Cheikh Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh, également parmi les professeurs de Cheikh al-Najmi, il y a également l'ancien grand mufti d'Arabie Saoudite, qui était Cheikh ibn Baz, Cheikh Abdel Aziz ibn Abdillah ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Puis Cheikh al-Najmi, donc, est lui-même devenu un grand savant et a enseigné de nombreux élèves, dont certains parmi eux ont fini par être de grands savants à leur tour, comme Cheikh Rabi al-Madkhali. Parmi les élèves de Cheikh al-Najmi, il y a Cheikh Rabi al-Madkhali, Cheikh Zayd al-Madkhali, Cheikh Ali Faqihi, Cheikh Mohammed bin Hadi al-Madkhali, et beaucoup d'autres, qui sont sur la route de leurs prédécesseurs, Inch'Allah. Cheikh al-Najmi avait beaucoup de qualités. Il était un modèle dans l'adoration et dans le comportement. C'était quelqu'un de modeste, d'attentionné, de généreux, d'intègre, de méticuleux dans le suivi de la sunna et intransigeant dans le combat de la bid'a. Il est décédé en 1429 de l'Égir, c'est-à-dire en l'an 2008 du calendrier chrétien, dans la ville de Riyad, en Arabie Saoudite. Puis son corps a été transféré dans sa région, Jizan, et c'est là-bas donc qu'a été effectuée la prière mortuaire, et il a été enterré dans son village natal, An-Nijamiya. Le Cheikh a laissé de nombreux ouvrages en héritage, que ce soit des ouvrages dans le dogme, dans le fiqh ou dans le hadith, en plus de ses recueils de fatwas et ses répliques. Et pour conclure donc cette introduction au cours que nous allons suivre, nous disons quelle magnifique explication d'un grand savant, le Cheikh Ahmed al-Najmi, sur un épître très important, ou sous la sunna, de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Donc nous trouvons réunis ici le mérite du livre, le mérite de son auteur et le mérite de son explicateur. Sachant qu'il est rapporté que Cheikh Rabi' al-Madkhali, hafizahullah, a dit, certes, le Cheikh Ahmed al-Najmi a cheminé sur la voie de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Certes, le Cheikh Ahmed al-Najmi a cheminé sur la voie de l'imam Ahmed ibn Hanbal. De là, il vous apparaît clairement la raison pour laquelle j'ai choisi de traduire cette explication de cet épître important, afin que nous apprenions la voie des salaf salih, les pieux prédécesseurs, les vrais gens de la sunna et de la jama'a, pour cheminer à notre tour sur leur voie bénie, incha'Allah ta'ala, wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.
Vous avez d'autres cours enregistrés ou en direct, et plus de traductions, rendez-vous sur le site Mirath al-Anbiya en langue française.